École,
habitat,
concertation,
urbanisme,
architecture,
promoteur,
ville,
mégalopole,
tour,
grands ensembles,
bidonville,
ghetto.
Euradio présente La Fabrique urbaine.
La Fabrique urbaine, la ville sous toutes ses coutures.
Il y a des livres qui vous touchent plus que d'autres. Celui d'aujourd'hui en est un. Sensible, intelligent, fluide dans sa lecture, un raisonnement étayé, un récit prenant en compte la complexité historique, sans jugement de valeur sur les expériences étudiées. Notre invité, Damien Darcy, nous raconte une histoire, celle de la disparition des communautés paysannes avec l'avènement de la modernité. Autogouvernées et autosubsistantes, celles-ci entretenaient, avec leur territoire, une relation de co-construction impensable au départ des catégories modernes. Le monde moderne, c'est l'apparition de deux mondes, la campagne d'un côté, la ville de l'autre, gouvernés dans la même volonté de tout contrôler, de tout maîtriser. Ainsi, nous développons une vision utilitariste de la nature, nature qui apparaît lorsque naît la ville. Cette distance, cette distinction est aujourd'hui re-questionnée dans le contexte de la crise climatique. Comme l'écrivaient déjà Aldo Leopold en 1949 dans l'Almanach d'un comté des sables, une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. Nous retrouvons Damien Darcy dans quelques instants. Dans la seconde partie de l'émission, nous retrouvons Juniette pour sa flânerie, bien sûr. C'est la Fabrique urbaine 61 et c'est parti.
La Fabrique urbaine, la ville sous toutes ses coutures.
Damien Darcy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'université de Mons, en Belgique. Vous travaillez sur les mouvements de contestation sociale mettant en jeu les espaces urbains ou plus largement les territoires, par exemple des squats à Calais, des mouvements de gilets jaunes, les ZAD, on va en reparler dans quelques instants. Vos recherches en fait actuelles s'inscrivent aussi dans le champ de l'écologie politique. Vous êtes soucieux de faire sortir la philosophie hors des murs de l'université, et donc vous intervenez aussi régulièrement dans des cadres militants ou associatifs. Je vous ai invité aujourd'hui Damien Darcy, car vous venez de publier « Pour une écologie libertaire » avec un sous-titre « Penser sans la nature, réinventer des mondes » aux éditions Hétérotopia. Dans une première partie de votre ouvrage, Damien Darcy, vous revenez en fait sur les grands partages modernes entre l'humain, la nature, le patrimoine, l'industrie, avec lequel nous pensons notre rapport au monde. Avant de revenir un petit peu sur votre cheminement intellectuel, afin de revenir vraiment sur ces éléments historiques, je voudrais revenir déjà peut-être dans un premier temps sur pourquoi vous avez écrit ce livre.
Alors c'est une super question, donc je réponds, je vais essayer d'être le plus bref possible. Donc il y a deux éléments en fait qui m'ont donné envie d'écrire ce livre. Le premier, c'est d'abord une rando en montagne, donc je suis un passionné de photographie nature, et donc je vais régulièrement photographier les bouquetins, voilà, donc en altitude, en toute saison, etc. Et donc une fois, je remontais dans une réserve naturelle qui me tient assez à cœur, dans la vallée du Giffre, donc du côté de Sixtfer à cheval, pour photographier ces bouquetins, et après avoir pas mal grimpé, hein, donc j'étais assez éloigné des différents sentiers, etc., je me suis retrouvé nez à nez avec mes bouquetins, sauf que cette fois-ci, la plupart d'entre eux, en fait, étaient bagués d'une part et équipés de colliers GPS. Alors évidemment, je savais bien que la nature faisait, les animaux en particulier, faisaient l'objet d'une certaine surveillance, en fait, mais j'imaginais pas que ça pouvait être à ce point-là. Et là, en redescendant, du coup, sur le village de Sixte, il y a vraiment quelque chose qui s'est un peu cassé. Je me suis dit, ben tiens, en fait, ce lieu que je parcours comme étant voilà, de la nature, un sanctuaire naturel, quelque chose qui est censé échapper, en fait, au contrôle des humains, ben en fait, pas du tout. Ces bouquetins, voilà, que j'ai l'habitude de voir très très régulièrement, m'apparaissaient cette fois presque déguisés, maquillés, en tout cas presque plus tracés que moi, en fait, notamment du fait de ces colliers GPS. Donc ça a été la première anecdote qui m'a vraiment donné envie de me renseigner un peu, ou en tout cas de commencer à travailler sur, bah tiens, on parle de nature, mais ça veut dire quoi en fait, la nature par rapport à quoi, est-ce que ça se construit, comment ça fonctionne, etc. La deuxième chose, c'est que, alors j'ai eu la chance d'acheter en fait un champ que j'ai décidé de cultiver, et pas seulement, j'ai aussi quelques animaux domestiques comme des poules, des moutons, des lapins, etc. Bon, Et en fait, en cultivant ce champ, alors en permaculture, mais alors j'emploie ce terme-là non pas comme un terme un peu générique, hein, donc c'est pas des recettes toutes faites qu'il s'agit uniquement d'appliquer, c'est plutôt l'idée de bricoler ce jardin en fait avec tout ce que j'ai sous la main, notamment ce qui se trouve dans la forêt tout près, etc. Donc je vais chercher des bois, des pierres, etc. et j'aménage le jardin à partir de vraiment tous les milieux qui lui sont coexistants. Et donc, en aménagement ce jardin, je me suis rendu compte, en fait, très rapidement, que alors que j'y étais beaucoup, ben, ce jardin, il était mais surinvesti par toute une série d'autres vivants, en fait, non humains, évidemment. Donc, c'est des oiseaux, des chevreuils la nuit, parfois des sangliers aussi. Donc, toute une série de petits rongeurs. Et donc là, je me suis dit, mais c'est assez amusant, parce qu'on a tendance à opposer les espaces humanisés et les espaces naturels. Et ce jardin me semblait être quelque chose de beaucoup plus compliqué, en fait. Ça veut dire quelque chose qui m'obligeait... En tout cas, moi, à compliquer les catégories avec lesquelles je pensais, celle de une nature, donc qui serait l'autre de l'humain, et puis de l'autre côté des espaces humanisés. Précisément, ce jardin, j'y suis souvent, et en même temps, bah, je me rends de plus en plus compte qu'on est nombreux à l'habiter. Donc voilà, ces deux éléments-là, en fait, m'ont amené à questionner, en fait, voilà, cette catégorie de nature avec laquelle je pensais jusque-là, et donc à entamer, voilà, un travail un peu plus théorique, mais qui reste, en fait, très, très, très appuyé, en fait, sur toute une série de cas pratiques, et notamment, faut le dire comme ça aussi, en fait, d'expérience personnelle.
Alors, à partir de votre expérience personnelle, ça permet de, là, d'arriver sur votre, le contexte de votre ouvrage aussi, où vous expliquez bien l'évolution historique. Et donc, on démarre dans votre livre, avant la révolution industrielle, déjà, comment fonctionnent un peu les communautés villageoises ? Quel rapport entretiennent-elles avec la nature, si on parle déjà de nature ? Ça, ce sera peut-être deuxième sujet.
Alors là, je commence par préciser juste une chose, c'est que ce bouquin, alors, je m'appuie sur un auteur en particulier pour développer en fait mes théories. Alors je ne me prive pas évidemment de le tordre, etc. Cet auteur-là, donc j'en fais autre chose, je pense, que ce que lui faisait. Hein. Mais c'est Bernard Charbonneau, et je m'appuie en particulier en fait sur l'un de ses ouvrages assez connu, qui a été republié récemment, qui est le Jardin de Babylone. Et ce qui est passionnant, en fait, dans le bouquin de Charbonneau, c'est quoi? C'est que Charbonneau, il commence par dire, en fait, que la paysannerie, elle est parfaitement étrangère à cette catégorie de nature. Ça veut dire la nature, en fait, ben voilà, pour le dire très simplement, pour un paysan, ça veut rien dire. Alors, pourquoi est-ce que ça veut rien dire? Charbonneau explique que le paysan, il vit dans ce qu'il appelle un cosmos. Alors, le cosmos paysan, faut prendre ça avec des pincettes. Pourquoi? Parce qu'on va très vite avoir, en fait, des films comme Avatar ou Danse avec les loups, en fait, derrière la tête. C'est-à-dire l'idée que le paysan vivrait harmonieusement, comme ça, dans une nature, qu'il y aurait sa place, en fait. On pourrait presque dire ça, soigneusement articulé à celle des autres. Le truc de Charbonneau, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire ce qui caractérise, en fait, le rapport des paysans à leur monde, c'est quoi? C'est la lutte. Ça veut dire c'est la lutte, en fait, si vous voulez, qui scelle ou qui lie le paysan à son milieu de vie. Alors, qu'est-ce qu'il entend par lutte? Bah, simplement qu'il faut défricher la terre et la défricher en permanence, hein, sans quoi, évidemment, les herbes poussent, hein, il y a le regain, etc. Il faut se prémunir du froid et on doit chaque fois faire avec tout ce qu'on a sous la main. Donc, cette lutte-là, dit Charbonneau, on peut dire d'une certaine manière que ce qui la caractérise, c'est quoi? C'est que c'est dans le même temps un rapport de co-construction du paysan et de son milieu. Je formule ça un peu plus simplement. Ça veut dire, d'une certaine manière, le paysan, il façonne, si vous voulez, autant son milieu de vie qu'il est façonné par lui. Il doit faire avec ce qu'il a sous la main, il doit faire avec le milieu dans lequel il vit. Et ça, ce qui est assez passionnant, c'est quoi? C'est que ça se traduit alors, comment je pourrais dire ça, au niveau du territoire, de l'aménagement du territoire, par des territoires tout à fait spécifiques. En fait, dans les territoires paysans, c'est extrêmement compliqué, en fait, de pouvoir distinguer, si vous voulez, la part de l'humain et la part de la nature, pour reprendre les mots avec lesquels, ou les concepts, les catégories avec lesquelles on fonctionne aujourd'hui. On peut dire que dans la paysannerie, dans les territoires paysans, il est impossible de distinguer l'humain de cette nature. En fait, les deux se font toujours plus ou moins l'un dans l'autre. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas des lieux plus humanisés. Hein. On pense, par exemple, à la ferme paysanne. Hein. Sauf que quand on y regarde bien, même cette ferme-là, c'est pas simplement un espace humanisé. OK, elle abrite, évidemment, ses propriétaires, mais pas seulement. Pourquoi? Parce que dans toute une série, en fait, de villages paysans, c'était évidemment pas le cas partout, mais c'était quand même le cas assez souvent. Par exemple, on vit avec des bêtes. Alors, on vit avec des bêtes qui sont des animaux domestiques, mais pas seulement. Ça veut dire que dans les combles, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une quantité, par exemple, de vivants non humains, comme des chauves-souris, des oiseaux, etc., qui profitent de ces lieux-là. Ce qui veut dire que la ferme paysanne elle-même est déjà un lieu où s'hybride, si vous voulez, d'une certaine manière, l'humanité d'un côté, la nature de l'autre. Ensuite, quand le paysan doit cultiver, c'est ça qui est assez passionnant, on n'a pas encore le barbelé, on n'a pas encore tout ça évidemment. Donc on défriche, mais quand on fait un champ, comment est-ce qu'on va clôturer entre guillemets ce champ? Ben, on va aller prélever en fait dans la forêt toute proche des essences arbustives qui vont permettre ben, voilà, de faire des équivalents de clôture. Ces essences c'est quoi? C'est par exemple c'est l'aubépine, c'est le prunelier, etc. Et ce faisant en fait, on constate assez rapidement, parce qu'il y a encore hein, donc des traces, évidemment la paysannerie a disparu, hein, donc les territoires paysans en même temps, on y reviendra sans doute j'imagine, mais il y en a encore des traces parfois quelque part, et donc on peut constater que ces champs ne font pas rupture avec la forêt, mais précisément parce qu'ils mobilisent pour être clôturés ou pour être délimités des essences arbustives, on peut les considérer pratiquement en fait comme un prolongement, si vous voulez, de cette forêt. Enfin, dans les territoires paysans, il y a aussi évidemment des lieux qu'on parcourt moins souvent, on peut penser aux landes sauvages, etc. Bon, mais ce n'est pas parce qu'on les parcourt moins souvent qu'on ne les parcourt pas d'une part, qu'on ne les connaît pas d'autre part, etc. Donc on pourrait dire, si vous voulez, que ce qui caractérise en fait le cosmos paysan ou les territoires paysans auxquels ils donnent vie, c'est une mosaïque de milieux qui sont connectés les uns aux autres, imbriqués les uns dans les autres, et dans lesquels il est, encore une fois, pratiquement impossible à chaque fois de distinguer en fait parfaitement la nature de l'humain.
Alors, avec cette mosaïque de milieux, Damien Darcy, la révolution industrielle va bouleverser les rapports sociaux, économiques, et surtout un rapport au sol, au territoire, grâce à la maîtrise de différentes techniques qui permettent de s'affranchir des territoires et de créer en fait des territoires différenciés entre ville et campagne. Alors, quelle relation, quel rapport qui s'établissent entre ces deux entités?
Là, j'aurais presque tendance en fait à dire presque un peu l'inverse, au sens où il me semble que la différence, si vous voulez, entre les villes et les campagnes, elle était beaucoup plus marquée en fait du temps de la paysannerie. La ville avait son fonctionnement propre, et il faut pas oublier par exemple qu'une ville comme Paris, donc là c'est les thèses de Gilles Fumet et de Thierry Pacot notamment, une ville comme Paris est pratiquement autosuffisante en fait jusque grosso modo le milieu du XVIIIe siècle, et les villages paysans ont eux-mêmes en fait une forme d'autonomie, ça veut dire ils vivent on va dire de manière pratiquement autarcique. Donc c'est cette différence à mon avis qui précisément va s'estomper, si vous voulez, avec l'avènement de la modernité. Alors j'explique très vite. Souvent, la révolution industrielle, on a tendance à la présenter comme une révolution urbaine. Et vous le savez aussi bien que moi, il y a des ouvrages cultes sur la question. On pense à Paris, capitale de la modernité, notamment de David Harvey. Voilà, bon. Donc, on présente très souvent la révolution industrielle comme une révolution qui aurait transformé en profondeur, en fait, le visage des villes. Mais on oublie souvent, en fait, que précisément pour faire fonctionner les industries, on a à l'époque, et toujours aujourd'hui hein, d'ailleurs, un besoin mais colossal en matières premières. Ça veut dire il faut de l'eau, il faut du bois, il faut évidemment aussi des aliments pour pouvoir nourrir une population ouvrière de plus en plus importante. Et cette eau, ce bois, ces aliments, en fait, la ville peut pas les fournir. Et du coup, est-ce qu'on va aller la chercher dans les campagnes? Sauf qu'à l'époque, les territoires paysans, ce qui les caractérise, c'est qu'en fait, ils sont très peu productifs. Pourquoi est-ce qu'ils sont très peu productifs? Parce que, encore une fois, on vit en autosuffisance, de manière autarcique, ce qui veut dire qu'on produit en fait ce dont on a besoin pour vivre. On produirait même plus, au fond, on ne dispose pas encore, si vous voulez, des circuits économiques, par exemple, pour faire circuler surplus. Autrement dit, les territoires paysans de l'époque sont très peu productifs, et pour pouvoir en fait développer la révolution industrielle, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour industrialiser les villes? Il va falloir en fait d'abord, dans un premier temps, industrialiser les campagnes. Et cette industrialisation des campagnes, c'est ce que je montre dans le livre en fait, elle va supposer quoi? La destruction complète. Alors évidemment, elle se fait pas d'un coup, elle se fait progressivement, suivant les endroits, suivant qu'un village est par exemple à proximité d'une grande ville, il va pas être transformé aussi rapide, enfin, il va être transformé, pardon, plus rapidement que si il est plutôt très loin des villes, etc. Donc, il va y avoir destruction, si vous voulez, de ce cosmos paysan, destruction de l'agriculture paysanne, qui va se retrouver remplacée par quoi? Par, justement, une industrie agricole, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire deux vastes forêts, deux vastes zones de culture, etc. Mmh. Et alors, pour faire tout ça, évidemment, on va avoir besoin de quoi? D'abord, on va s'appuyer sur une toute nouvelle discipline, en fait, la cartographie moderne. Alors, évidemment, on fait des cartes depuis très longtemps, donc quand je dis une nouvelle discipline, c'est pas tout à fait vrai, mais disons qu'il y a un moment de rupture, c'est que ce qui caractérise cette cartographie moderne, c'est quoi? C'est qu'elle va utiliser, en fait, l'aérien pour se développer. C'est-à-dire que pour la première fois, en fait, on va utiliser le ballon d'abord, on pense aux montgolfières, l'avion ensuite, hein, encore aujourd'hui, maintenant c'est des satellites. Donc on va, si vous voulez, utiliser l'aérien, ça veut dire qu'on va regarder les territoires d'en haut. Et vu d'en haut, bah, ces territoires vont pouvoir, virtuellement dans un premier temps, être entièrement, si vous voulez, reconfigurés pour être cette fois, dans un second temps, radicalement transformés.
Avant d'aborder la partie sur les ZAD, j'ai quand même une question sur le rapport que l'on va entretenir avec cette nature qui est mise en fait sous cloche de certains espaces. Vous prenez l'exemple par exemple de la création des parcs américains Yosemite ou des certaines vallées alpines en France qui excluent les populations, on va dire autochtones, de leur lieu millénaire de vie. Alors expliquez-nous ce que cela dit de notre rapport à la nature avant d'arriver sur les ZAD parce que le temps file.
Oui, désolé, vous me dites si je réponds trop longuement. Faut pas hésiter à me couper. Je vais assez vite. En fait, notre conception de la nature, elle ne naît pas comme ça par hasard. Hein. Alors évidemment, elle a une histoire, notamment dans le champ de la philosophie, mais pas seulement. Mais il y a quand même deux événements majeurs, en fait, qui rendent possible cet avènement de la nature. C'est quoi? Le premier, ça va être l'interdiction des communs par la promulgation du code forestier. Ce qui caractérise, en fait, je vais assez vite, mais ce qui caractérise, en fait, la paysannerie, c'est quoi? C'est que pour subsister, elle a besoin, en fait, de milieux dont elle peut faire librement usage, d'accord? L'interdiction des communs, ça va être l'interdiction pour les paysans, par exemple, d'intervenir dans la forêt, etc. Donc, premier événement, c'est celui-là. On suspend la possibilité pour les sociétés villageoises, si vous voulez, d'intervenir dans ce qui, jusque-là, constituait leur milieu de vie. Deuxième grand événement qui va, en fait, donner naissance à notre conception de la nature, c'est quoi? C'est le développement, exactement, dans le même temps, des sciences naturelles. Et les sciences naturelles, elles vont permettre d'appréhender des milieux qui, jusque-là, étaient, en fait, des milieux fortement anthropisés, fortement travaillés par l'homme, comme des milieux naturels. On ne va plus s'intéresser à la façon dont ces milieux ont été co-construits, mais on va regarder ou se focaliser, on pourrait dire ça comme ça si vous voulez, sur par exemple le rapport entre l'ensoleillement, la nature du sol et les vivants non humains qui vivent à ces endroits-là. Donc ce qui caractérise la nature en Occident, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour faire exister cette nature, il a fallu invisibiliser tous les rapports de transformation que ces milieux avaient subis depuis parfois des siècles. Et la grande contradiction, évidemment, qui va très vite, en fait, frapper cette nature-là, cette conception de la nature-là, c'est quoi? C'est qu'on se rend vite compte qu'une fois qu'on a chassé les humains de cette nature, cette nature, elle a tendance à s'homogénéiser. Je peux prendre un exemple tout bête, c'est celui, par exemple, des zones humides. Les zones humides, a priori, elles ont l'air très sauvages. Pourquoi est-ce qu'elles ont l'air sauvages? Parce que la trace de l'humain, eau oblige, s'y efface plus rapidement qu'ailleurs. Sauf que, une fois qu'on n'y intervient plus, par exemple pour prélever des roseaux, des choses comme ça, ces zones humides finissent en fait par progressivement s'assécher et se réenforester. Ce qui veut dire que cette nature, si vous voulez, au moment même où on l'invente, elle est frappée d'une contradiction. Ça veut dire que la diversité des milieux qu'on entend protéger tend à disparaître si on n'intervient plus. Et du coup, dès le départ, alors que la nature est définie comme un monde autre que celui des humains, les humains ne vont plus cesser d'y intervenir. Sauf que, et c'est ça la grosse différence, après je m'arrête là-dessus promis, c'est que ces interventions, en fait, elles sont désormais confiées aux spécialistes de la nature, aux spécialistes de l'environnement, les écologues, les naturalistes, etc., qui vont être des personnes autorisées à intervenir dans cette nature parce qu'ils disposent d'un savoir, celui des sciences naturelles, etc., qui légitiment justement leurs interventions. Donc c'est ça qui est assez amusant, ça veut dire c'est au moment où on invente la nature, il y a immédiatement une contradiction, les lieux qu'on entend protéger supposent paradoxalement d'y intervenir en permanence, il y a maintenant un enjeu politique fondamental, c'est donc on n'intervient pas moins qu'avant dans cette nature, mais ce ne sont plus les mêmes personnes qui y interviennent, aujourd'hui sont plutôt des personnes autorisées parce qu'elles peuvent faire valoir certaines compétences.
Alors, on n'aura pas le temps de parler de la gestion déconnectée des usages, mais dans une autre grande partie, la liberté. Damien Darcy, vous analysez des expériences concrètes comme les ZAD, en particulier celle de Notre-Dame-des-Landes, où on revient sur les communs urbains qui remettent en fait radicalement en jeu les manières de faire territoire. Des ZAD qui naissent, comme vous le rappelez, à chaque fois de la contestation d'un projet d'aménagement concret porté par l'État ou par un groupe industriel. Alors, quelle analyse faites-vous de ces expériences de vie? Alors, faire commun, c'est faire commun aussi dans la lutte.
Oui, tout à fait. Alors, moi, ce qui me passionne sur les ZAD, c'est d'abord un premier problème, c'est effectivement dans le cas de Notre-Dame-des-Landes par exemple, mais c'est le cas de plein d'autres ZAD, il y en a eu une à Liège, comme je suis liégeois, donc il n'y a pas très longtemps, c'est pour défendre les milieux qu'on entend protéger pour leurs valeurs en fait écologiques, pour leur biodiversité, etc. par exemple, on est obligé d'occuper ces lieux. Pourquoi ? Parce que si on ne les occupe pas, si on se barre la nuit par exemple, bon bah c'est très simple, les pelleteuses arrivent et le lendemain il n'y a plus rien. Donc, le truc, premier truc fondamental sur une ZAD, c'est quoi ? C'est que alors qu'on entend protéger des lieux pour leur forte valeur écologique, bah les protéger suppose en fait de les habiter. Donc ça, c'est déjà un premier truc hyper intéressant, c'est que le principe même d'une ZAD complique l'opposition entre l'humain et la nature. On habite les lieux naturels que l'on entend préserver. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quoi ? C'est qu'en plus de ça, sur une ZAD, c'est plein de profils très différents en fait qui se rejoignent. C'est des habitants du coin, mais c'est aussi, par exemple, des jeunes urbains, des militants, etc. Bon. Et tout ça doit pouvoir tenir sur une ZAD. Et là, ce qui me passionnait aussi sur une ZAD, c'est de voir en fait comment la ZAD, sur une ZAD, progressivement, un territoire commun s'élabore. Alors, juste une chose, ça veut dire que ces gens-là, ils ont des profils très différents, ça veut dire parfois tout les oppose. Et donc, la ZAD, d'une certaine manière, on peut dire que ce commun-là, il est rendu possible par une chose, c'est que, et ça c'est un vrai problème à penser, il y a un ennemi plus grand en fait, qui est l'État ou la grosse entreprise hein, ou l'industrie, voilà, qui va venir saccager le lieu. Et donc, cet ennemi commun, il faut quand même le dire ça comme ça, rend possible, si vous voulez, un rapport au conflit qu'on a entre soi qui est plus pacifié. Ça veut dire qu'on va être obligé, pour pouvoir tenir, de composer les uns avec les autres. Et là, ça devient quelque chose de passionnant. Vous avez une éleveuse, par exemple, de brebis sur une ZAD, qui va devoir composer, par exemple, avec des naturalistes, c'est un cas à Notre-Dame-des-Landes, qui eux voulaient précisément en fait pas mettre cette zone-là sous cloche, mais parfois presque. Et donc, bah, afin de pouvoir continuer à occuper les lieux pour les défendre, on va devoir discuter. Où est-ce qu'on va faire paître les brebis ? Tiens, peut-être qu'à tel endroit, elles vont pouvoir avoir un intérêt écologique particulier. Hein, pourquoi ? Parce que les brebis mangent telle plante et pas telle autre. Bon voilà, sur une ZAD, c'est plein de choses comme ça qui se passent. Ça veut dire, il y a d'une part, donc on habite un territoire qu'on n'était pas censé habiter, la nature, et donc ça, c'est un premier truc dingue. Le deuxième, c'est que, vu qu'il y a l'ennemi commun, bah, on est d'une certaine manière forcé à composer avec des personnes qui ne pensent pas nécessairement comme nous. Et petit à petit, ce qui voit le jour, à travers une série de conflits qu'on parvient à réguler comme ça, c'est un espace commun, ça veut dire un espace, non pas dont tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, mais un espace où l'on va négocier, si vous voulez, ensemble, les usages qu'on en fait. Alors après, je pense qu'il y avait une deuxième question, mais je ne sais pas si je j'anticipe pas un peu trop vite, c'était qu'est-ce qu'on peut faire des villes ?
Exactement, comment en fait on peut repenser, enfin, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces expériences de ZAD qui sont plus ou moins dans des contextes urbanisés ? Comment on peut repenser en fait notre rapport à la nature, au vivant, dans des milieux très urbanisés, dans nos métropoles d'aujourd'hui ?
Ouais, ça c'est toute la question qui est travaillée dans le dernier chapitre, hein, qui est un des plus importants, et j'aimerais bien que ça devienne un deuxième livre, ça, par ailleurs.
Il le faut.
Ouais, je vais essayer, il me faut un peu le temps, mais donc je vais essayer d'aller très vite. Donc la première chose que j'essaie de montrer donc dans cette dernière partie, c'est en fait d'abord une chose, c'est que les centres très urbanisés sont pas forcément en fait des lieux hostiles aux vivants. Alors on a l'impression en fait que les centres-villes, par exemple, bon bah il y a pas tellement d'autres vivants que les humains qui les peuples, en fait, c'est parce que ces centres-villes, ils sont déjà en permanence nettoyés, etc. Autrement, vous verriez très rapidement une flore tout à fait capable de s'approprier ces lieux-là. Une fois qu'on y regarde un peu plus, on va découvrir quoi ? Toute une série d'animaux. Et là, il y a un passage que je trouve assez important dans le bouquin, et je m'appuie là sur les thèses développées par Vinciane Després notamment, pour montrer comment, en fait, les approches naturalistes, elles peuvent avoir de mauvais côtés. En fait, elles peuvent tendre à naturaliser, si vous voulez, certains vivants. Et j'essaie de montrer que les vivants non humains, ils savent comme nous, ils peuvent comme nous, ils ont la capacité comme nous de pouvoir s'approprier des milieux qui, en fait, ne sont pas les leurs, à la base. Donc, ils sont capables de faire un monde à eux d'espace qui était censé leur être refusé. Il y a, par exemple, l'exemple du faucon à Bruxelles, du renard à Bruxelles, bon, tout ça. Donc, il y a une pelletée d'animaux, en fait, qui habitent, qui occupent, qui transforment nos espaces urbains également. Et partant de là, j'essaie de montrer qu'en fait, ces centres urbains, l'idée n'est pas de les déserter, par exemple, comme le propose Guillaume Faburel, d'abord parce que c'est juste absolument impensable de vider les villes de leurs millions d'habitants, mais par contre, on peut tout à fait se rapporter autrement à ces espaces-là. Se rapporter autrement à ces espaces-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable d'abord de penser que à même notre monde, en fait, toute une série d'autres vivants peuvent créer les leurs. Mais cela suppose, par contre, de transformer un peu nos pratiques. Ça veut dire de pouvoir non pas déserter certains espaces pour les laisser aux vivants non humains, mais radicalement transformer nos pratiques. Ça veut dire ne pas, par exemple, désherber, etc. Donc, ce sont des choses comme celle-là. Mais les villes peuvent parfaitement, évidemment, se cultiver. On peut parfaitement, là aussi, en fait, développer des manières de composer, des manières d'habiter qui incluent, en fait, tous les vivants non humains. Je vais un peu vite hein, dans le bouquin, évidemment. C'est
alors, ma dernière question, Damien Darcy, ce serait, quel est votre livre de chevet ?
Alors, mon livre de chevet, je sais pas si j'ai un livre de chevet parce que je lis beaucoup, oui. J'écoute beaucoup de musique, je regarde beaucoup de films en fait, mais il y a un livre en tout cas qui m'a marqué en fait, et qui est aussi un peu à l'origine du bouquin que j'ai écrit, c'est La zone du dehors d'Alain Damasio. Alors, au moins pour deux raisons, il y en a beaucoup d'autres. Hein. La première, c'est sur la fabrication du bouquin lui-même. J'adore ce bouquin de Damasio parce que c'est un bouquin qui fait un peu bricoler. Ça veut dire, il y a des passages qui sont... Donc, c'est un bouquin de science-fiction. Hein. Donc, il y a des passages qui font directement écho à d'autres bouquins de science-fiction, évidemment. D'autres qui sont construits plutôt comme des romans. Mais il y a parfois aussi presque des cours de philo. Ça veut dire qu'on identifie très vite dans les personnages qui mobilisent Camus, Sartre, etc., bon, Deleuze. Et ce bricolage-là, à la fois, je sais pas, à mi-chemin entre la réflexion philosophique et le roman de SF. Moi, j'adore ça parce qu'en fait, c'est autant de prises, en fait, pour pouvoir penser. Un bouquin de philo, c'est parfois compliqué. Mais dans un roman comme celui-là, ben voilà, c'est des prises qui, à un moment donné, permettent de commencer à s'intéresser à toute une série de choses via, en fait, des moyens qui sont hyper accessibles. Puis, cette dimension bricolée, vraiment, je la trouve assez géniale. Le deuxième truc, c'est quoi? C'est que dans la zone du dehors, il y a une espèce de conception chez Damasio de l'émancipation politique qui, moi, m'a beaucoup touché, puisque l'idée de Damasio, c'est de dire, au fond, l'enjeu n'est pas d'opposer, si vous voulez, au système dominant une seule autre manière de voir, une seule autre manière de faire, derrière laquelle on devrait, pour résister, tous se ranger. Non, au contraire, en fait, Damasio, il fait jouer, si vous voulez, contre ce système dominant, une prolifération, en fait, de micro-communautés qui entretiennent chacune un rapport tout à fait singulier, alors évidemment aux vivants et au territoire sur lequel elles vivent. Et ça, j'ai trouvé ça assez génial. Mon propre bouquin se termine un peu comme ça, c'est-à-dire comme une invitation, non pas à se ranger tous comme un seul et même homme contre le système capitaliste qu'il faut affronter, mais au contraire d'essayer de faire proliférer partout où faire se peut des micro-communautés comme ça qui développent des manières alternatives d'habiter nos territoires et de se rapporter en fait aux vivants qui les peuplent.
Damien Darcy, je vous remercie. Je rappelle juste une des dernières phrases, mais vous n'aurez pas le temps d'y répondre et vous n'aurez pas le temps de rebondir dessus. Vous écrivez quand même « Il est impossible de penser l'autonomie d'une collectivité indépendamment de la lutte contre les puissances qui l'empêchent ». Donc c'est vraiment, vous parlez d'ensauvager la ville, voire plus. Donc je vous remercie Damien Darcy d'avoir répondu à mon invitation. Ouais. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, qui est vraiment à mettre dans toutes les mains. Et on attend vraiment, vous avez dit, le deuxième volume avec, avec impatience.
Hein.
Pour une écologie libertaire, penser sans la nature, réinventer des mondes, avec une préface de Thierry Paco et une postface de Maud Hagelstein. J'espère que je n'ai pas écorché son nom.
Non, c'est parfait, Maud Hagelstein.
Et donc publié aux éditions Hétérotopia. Collection Parcours.
Super.
Je vous remercie beaucoup.
Tout grand merci à vous.
À bientôt.
Tout de suite, les flâneries de Juliette Léchaud et West de La Fabrique Urbaine.
Il est temps de prendre l'air. Nous retrouvons Juliette pour ses flâneries. Alors Juliette, où nous mène ta flânerie ce mois-ci ?
Bonjour à toutes et tous. Pour débuter cette nouvelle année de façon lumineuse et profonde, je vous propose une flânerie sur les traces de notre mémoire. Comment fonctionne-t-elle ? Que reste-t-il de notre identité, de nos attaches et nos repères quand la mémoire défaille ? Sujet qui me concerne tout particulièrement depuis quelques années. J'ai choisi le roman de Semezdine Mehmedinovic, intitulé « Le matin où j'aurais dû mourir », paru en 2017 et traduit du bosnien par Chloé Billon en 2022 aux éditions Le Bruit du Monde.
Alors parle-nous du roman « Le matin où j'aurais dû mourir » de Semezdine Mehmedinovic.
Semezdine Mehmedinovic nous livre un roman très personnel et fortement autobiographique dont le personnage principal est Mehmed, un poète journaliste de 50 ans. Dès les premières pages, Mehmed échappe de peu à la mort lors d'une crise cardiaque grâce à l'intervention de sa femme Sanja. Cet homme d'origine bosnienne vit aux États-Unis où il s'est réfugié avec sa femme et son fils durant la guerre en Yougoslavie. Cet élément perturbateur va déclencher une crise identitaire chez Mehmed. Tout d'abord, l'hospitalisation met en lumière son statut d'étranger sur le point de mourir dans un monde étranger. Bien qu'il parle la langue et soit intégré, son état de malade, incapable de communiquer, le réduit à son corps, à ses vêtements, à son patronyme. Le besoin de se reconnecter à son passé et ses origines devient alors vital quand le cardiologue lui explique que l'un des effets secondaires de son traitement médical, prescrit à vie, est l'altération de sa mémoire. Ainsi émerge chez lui un sentiment de nostalgie géographique qu'il ne connaissait pas jusqu'alors. En effet, depuis son exil, son port d'attache était sa maison, le lieu où vivent ses proches. Par peur d'oublier et pour transmettre son histoire, Mehmed accompagne son fils photographe dans un reportage à travers les déserts américains. C'est l'occasion de revenir en Arizona sur les lieux de leur première installation américaine, à leur arrivée en 1996. Père et fils échangent à mots couverts sur les conditions de leur exil, sur sa culpabilité de père qui a tardé à quitter la Yougoslavie, imposant malgré lui, à sa femme et à son jeune enfant, des souvenirs traumatiques du siège de Sarajevo. Entremêlés de souvenirs, de sensations, de fragments de la vie quotidienne, mais aussi de dessins, l'auteur offre un récit lumineux et poétique où son pays d'origine, la Yougoslavie, et sa langue maternelle demeurent constamment en filigrane.
En quoi ce récit est intéressant, Juliette ?
La dernière partie du roman est consacrée à Sanja, la femme de Mehmet. Suite à un infarctus, sa mémoire récente est altérée. Si son mari l'entoure et lui remémore sans cesse leur histoire, seuls certains souvenirs anciens demeurent chez Sanja, notamment les traces qui restent à jamais engrammées dans le cerveau et le corps. Les violences de l'enfance et encore une fois le siège de Sarajevo qui les a obligés à se réfugier dans une cave pendant plusieurs semaines. Le roman évoque les différentes formes de l'oubli. Le corps est omniprésent. L'altérité du corps et les empreintes de celui-ci, qui finalement semblent plus fortes que la mémoire des lieux. Les sujets sont graves, mais le récit reste éblouissant grâce à sa poésie et à la beauté du regard que l'auteur porte sur la vie. Sa façon de décrire les scènes du quotidien ou de les dessiner donne une place forte à l'image. L'auteur, Semezdin Mehmedinovic, a beaucoup peint étant jeune. Il considère que l'image peut transmettre les émotions sans avoir à les verbaliser. Ce n'est pas un hasard si le fils dans son roman est photographe. L'auteur explique que pour continuer à vivre, à dépasser les traumatismes, il s'est appuyé sur les anecdotes et l'ironie de l'existence, quelle que soit l'adversité.
Qu'as-tu retenu du roman de Semezdin Mehmedinovic ?
C'est un roman contemporain qui a été publié en français en 2022, 30 ans après la guerre en Yougoslavie. Par petites touches, l'auteur évoque le siège de Sarajevo et notamment l'incendie symbolique de la Bibliothèque nationale d'inspiration ottomane qui intégrait l'Institut oriental. Cet incendie volontaire et spectaculaire visait à frapper la mémoire de la ville en portant atteinte à un monument et à son contenu. En cela, il constitue une forme de guerre spécifique qui ne détruit pas pour des motifs stratégiques, mais pour des enjeux identitaires et politiques. L'architecte Bogdan Bogdanovic, ancien maire de Belgrade, mort en exil, est le premier à avoir utilisé le terme d'urbanicide pour décrire cette destruction massive de la ville en tant que lieu de refuge, de culture et de développement de l'humanité. Condamné par le droit international, les exemples de destruction radicale des villes sont nombreux. Dresde en Allemagne en 1941, Mossoul en 2016 en Irak ou encore Mariupol récemment en Ukraine. Les conflits modernes pourraient cibler leurs actions grâce à des outils et des armes de précision. L'urbanicide consiste à terroriser, faire table rase du passé pour marquer les esprits. L'ouvrage intitulé « Urbanicide, destruction et renaissance urbaine du XVIe siècle à nos jours » paru en 2021 est à retenir pour une prochaine émission. Pour conclure sur une note plus légère, Aldo, je conseille à tous le roman de Semezdin Mehmedinovic, Le matin où j'aurais dû mourir, qui est une grande beauté, très sensible et parcourue de beaux dessins à ne pas rater. Je vous invite également à découvrir la maison d'édition Le bruit du monde, qui a publié ce roman. C'est une toute jeune maison d'édition marseillaise qui s'est donnée comme mission, je cite, « de révéler une littérature traversée par les enjeux du monde moderne et source de plaisir, capable d'enrichir nos imaginaires et d'élargir nos horizons ». Voilà un joli programme qui devrait croiser les chemins de nos futures flâneries. Sur ce, je vous donne rendez-vous le mois prochain.
Merci Juliette, à bientôt. On se retrouve dans 15 jours pour découvrir le dernier ouvrage de Michaël Labbé, Aux alentours, regard écologique sur la ville. Vous pouvez réécouter, podcaster l'émission sur le site SoundCloud et maintenant Spotify et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je remercie toute l'équipe de La Fabrique Urbaine qui a rendu possible cette émission, Juliette, Laurent qui a assuré la coordination technique et le montage de cette émission. Le choix musical de cette émission, c'est Polo et Pan pour le titre Canopée. C'était La Fabrique Urbaine, une émission produite et animé par Aldo Berzato. Ciao.
Euradio vous a présenté La Fabrique Urbaine, la ville sous toutes ses coutures. Plus d'infos et podcasts sur le SoundCloud de La Fabrique Urbaine et sur euradio.fr.
Jungle sauvage.